France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
L'observatoire radio le plus puissant au monde est en cours de construction. Les travaux ont commencé en 2022. Quelles sont les ambitions scientifiques du futur SKA ? SKA pour Square Kilometer Array, littéralement le réseau d'un kilomètre carré. Ce futur télescope radio géant est l'un des projets les plus ambitieux de l'astronomie moderne. Un observatoire unique de deux radiotélescopes mis en réseau, l'un en Australie, l'autre en Afrique du Sud. Ce projet d'envergure internationale, comme il en existe peu, est porté par 12 États membres et devrait être mis en service d'ici 2030. On espère notamment sonder une période obscure de l'histoire cosmique, les âges sombres, cette époque méconnue juste avant l'allumage de la première génération d'étoiles de l'univers. SKA, le géant de la radioastronomie. Et bonjour Florent Mertens.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Observatoire de Paris, au laboratoire LUX, laboratoire d'études de l'univers et des phénomènes extrêmes. Nous sommes en ligne également avec Chiara Ferrari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur et directrice du SKA France. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre fil podcast de l'appli Radio France. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur Blue Sky, là où toute la communauté scientifique s'est retrouvée pour dialoguer. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment mener à bien ce projet mondial d'une telle envergure? Et outre le fait d'être d'une ampleur inédite, qu'est-ce qui fait du SKA un outil d'une précision jamais atteinte? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quel est le principe même de la radioastronomie? Retour aux fondamentaux avec notre archive du jour. Nous sommes en 1957.
Les radiotélescopes, contrairement aux télescopes électroniques de M. Lallemand par exemple, ont été imposé par les observations, par le ciel, si vous voulez. Alors que le télescope de M. Lallemand a été conçu pour étendre des observations qu'on connaissait bien dans l'optique, il se trouve que c'est un hasard qui a fait que vers 1930, un Américain des Bell Telephone, M. Jansky, qui recevait des signaux en provenance de Londres et cherchait à les localiser aussi bien que possible au-dessus de l'Atlantique, s'est aperçu qu'en même temps que ces signaux, il recevait d'autres signaux, très faibles d'ailleurs, mais permanents, et il a tout de suite vu que ces signaux provenaient de la galaxie, tournés avec le mouvement diurne, si vous voulez, ils étaient liés aux étoiles. Cette observation, assez curieusement d'ailleurs, a été faite, comme je vous le dis, en 1930, et les astronomes n'ont pas tout de suite vu l'importance de cette découverte qui était trop nouvelle, si je puis dire, à l'époque. Trop nouvelle du point de vue interprétation et sans doute aussi trop nouvelle du point de vue instrumental. À ce moment-là, les récepteurs radioélectriques que l'on construisait pour l'industrie n'étaient pas encore très sensibles. Il a fallu vraiment l'effort inouï qui a été fait pendant la guerre, spécialement pour développer les récepteurs de radar. L'effort qui a été fait en Angleterre et en Amérique spécialement, qui ont mis entre les mains des astronomes les instruments vraiment propres à ce genre d'observation. Et ainsi, les instruments d'observation, nos instruments d'observation, nos radiotélescopes se trouvaient tout de suite construits, si vous voulez. C'était tout simplement des antennes ordinaires, assez directives, c'est-à-dire qui puissent localiser dans l'espace une émission assez correctement. En somme, si vous voulez, ce sont des antennes tout à fait analogues aux antennes de télévision.
Voilà un extrait de l'émission Les grandes découvertes scientifiques du XXe siècle sur la RDF en 1957 et la voix de Jean-François Denis, ancien président du CNES. Florent Mertens, comme le suggère un peu cette archive, la puissance de ces instruments augmente tous les jours, ou presque.
Oui, tout à fait, oui, c'est pour pouvoir observer vraiment tous ces phénomènes que l'on observe aux ondes radio, on a besoin de plus en plus d'antennes pour collecter cette masse d'informations. On est parti en effet d'antennes très simples, les radars qui étaient construits à l'époque, pour maintenant avoir des réseaux d'antennes qui nous permettent d'observer ces phénomènes.
Chiara Ferrari, votre réaction à l'écoute de cette archive?
C'est magnifique parce que d'un côté on voit déjà la surprise et l'intérêt, disons, surtout des scientifiques pour ce domaine qui a pris du temps quand même à émerger dans l'astronomie. C'est resté pendant du temps une science de niche, l'art d'astronomie. Et en même temps, c'est une grande satisfaction parce qu'en effet, aujourd'hui, on sort de la radioastronomie comme science de niche, parce que grâce au grand télescope que Florent vient de mentionner, on commence à pouvoir aller observer tous les phénomènes physiques de l'univers au travers de radiotélescopes. Donc, au début, c'était que quelques parties de l'astronomie qu'on pouvait étudier en radio. Aujourd'hui, ça devient une science qui peut couvrir vraiment toute la vie de l'univers, depuis la naissance de l'univers jusqu'à la recherche d'exoplanètes, etc. Donc c'est toujours beau de voir d'où on est parti, où on en est. Et c'est donc c'est joli de commencer comme ça, effectivement.
Alors c'est en effet plus une science de niche, la radioastronomie, puisque le grand radiotélescope, le plus grand au monde, le SKA, fera donc c'est un réseau d'un kilomètre carré, une surface collectrice effective donc de 1 million de mètres carrés. Ça, Florent Mertens, comment c'est possible?
Alors c'est en combinant un très nombre d'antennes entre elles. Donc d'abord, on peut mentionner que SKA, donc ce sera, comme vous l'avez dit en introduction, ce sera deux radiotélescopes, un installé en Australie, un installé en Afrique du Sud. Et donc en Australie, typiquement, on va combiner les signaux reçus par plus de 130 000 antennes à terme. Ce qui est énorme et donc équivaut, alors en surface collectrice, on n'atteint pas exactement 1 km², mais on est à la moitié d'un kilomètre carré. Donc c'est déjà une surface collectrice immense et beaucoup plus que les radiotélescopes actuels.
C'est ça, c'est qu'en Australie, on a le SKALO avec ses 131 000 antennes. Chiara Ferrari, côté Afrique du Sud, on a le SKAMID, c'est ça?
Exactement, les noms sont associés effectivement aux fréquences couvertes. Donc LO pour les basses fréquences, MID pour les fréquences moyennes. Et il s'agira en ce cas de grandes paraboles avec des diamètres de l'ordre de 15 mètres. Et on attendra à terme environ 200, un peu moins de 200 antennes paraboliques en Afrique du Sud qui constitueront environ 3-5% du square kilomètre array, mais qui seront déjà le plus grand, le plus puissant radiotélescope au monde dans ce régime de fréquence.
Alors SKALO et SKAMID, ce sont donc tous les deux des interféromètres, mais Florent Mertens, quel est leur design et pourquoi ces deux choix différents?
Alors c'est pour pouvoir couvrir des gammes de fréquences différentes. Des gammes de fréquences, alors on observe les ondes radio, donc en fréquence, peut-être c'est mieux de parler en longueur d'onde. Donc les longueurs d'onde que l'on peut observer avec SKALO en Australie sont de l'ordre de plusieurs mètres. Et donc on utilise pour SKALO un modèle d'antenne qui ressemble un peu à un sapin de Noël, en fait, qui est un peu pyramidal avec une base un peu plus élargie. Et ce design-là est pour pouvoir couvrir toute cette gamme de fréquences que l'on veut observer. Donc la base un peu plus élargie à la base est plus sensible aux plus grandes longueurs d'onde et à la pointe plus sensible aux plus basses fréquences.
Et donc ces deux stations, enfin toutes ces stations vont travailler ensemble pour former un réseau interférométrique. Chiara Ferrari, on peut peut-être rappeler ce principe, comment ça fonctionne l'interférométrie?
Oui, effectivement, l'interférométrie a même été considérée comme pour un prix Nobel, a reçu un prix Nobel l'idée de l'utiliser des interféromètres, en particulier des interféromètres qui continuent à fonctionner sur la Terre pendant très longtemps. Donc l'idée est la suivante, plutôt que d'avoir un gros seul télescope unique, on utilise beaucoup d'antennes, donc dans ce cas des centaines de milliers, jusqu'à des centaines de milliers, comme un seul télescope. Quel est l'avantage? L'avantage est que on a beaucoup d'antennes, donc on peut augmenter la surface collectrice, ce qui veut dire augmenter la sensibilité pour aller découvrir même les sources les plus faibles, et en même temps augmenter aussi la résolution angulaire, ce qui veut dire qu'on peut voir des détails très fins dans le ciel. Pourquoi? Parce que plus un télescope est grand, plus on peut voir des petites choses dans le ciel, de taille petite, ce qu'on appelle une résolution angulaire importante. C'est très très important parce que plutôt que de voir juste une grosse source de fonds de détails en augmentant la résolution angulaire, en augmentant la taille de l'interféromètre, on peut voir tous les détails à l'intérieur de la source. Donc plutôt que l'interféromètre, admettons si les antennes sont séparées de, disons, 100 km, ça veut dire avoir une, comme avoir une grande antenne unique de 100 mètres, ce qui nous permet de voir des détails très fins. Le fait que ce soit un interféromètre et pas une seule antenne unique, on la paye après dans le traitement de données. Mais c'est un principe vraiment très très important sans quoi on ne pourrait pas faire de la radioastronomie à ce niveau.
Et donc la résolution angulaire dépend donc de la taille totale du télescope. Mais Chiara Ferrari, pourquoi avoir choisi l'Australie et l'Afrique du Sud ?
Oui, alors il y a différentes raisons. Disons que les deux principales sont les suivantes. Il y en a une technique. Les radiotélescopes captent des ondes électromagnétiques aux mêmes fréquences de beaucoup d'appareils humains électroniquement. Donc il faut être le plus éloigné possible de toute interférence humaine, donc dans des régions très faiblement habitées. Et dans ce cas-là, donc deux régions désertiques ont été choisies. Donc réduire au maximum les interférences humaines. L'autre raison que parmi les principales, c'est au sud. Les deux télescopes ont été décidé de les construire au sud. Comme beaucoup d'autres grands télescopes au monde aujourd'hui, on parle par exemple des télescopes à mal visible de l'ESO. Pourquoi ? Parce que depuis l'hémisphère sud, on peut observer le centre de notre galaxie, ce qui n'est pas observable dans l'hémisphère nord et qui est une région du ciel extrêmement intéressante à étudier. Donc le fait d'avoir beaucoup de télescopes de types différents, entre autres des radiotélescopes, tous observant le même hémisphère, c'est très important pour la science qu'on peut faire conjointement avec d'autres grands télescopes mondiaux aussi.
Florent Mertens, à quel moment on s'est dit qu'il nous fallait un télescope d'une telle surface, une surface collectrice qui approche le kilomètre carré ?
Alors c'est vraiment pour l'idée de SKA remonte un peu à l'idée de la surface collectrice qu'il nous faut pour observer l'hydrogène neutre dans l'univers. Et surtout l'hydrogène neutre qui remonte à l'époque des premières étoiles.
L'hydrogène qui est le carburant des étoiles.
Et à ces époques lointaines, en fait, l'univers est principalement fait d'hydrogène neutre. Et donc, pour pouvoir observer ces époques, il nous faut des instruments extrêmement sensibles, et donc une surface correctrice immense. Et donc, c'est là où on est parti de l'idée de construire un radiotélescope de 1 km². Donc, on n'est pas tout de suite parti sur la construction de ce grand télescope. On a d'abord construit des précurseurs un peu plus petits pour pouvoir mieux améliorer les techniques et ensuite passer au square kilomètre carré.
Chiara Ferrari, en effet, l'idée est née. Enfin, ça fait quand même un certain temps que l'idée est en gestation. Quel est l'historique rapidement de ce projet gigantesque ?
Absolument. Donc, l'idée est née quand j'avais 11 ans et j'en ai 50. Donc, effectivement, comme Florent le disait, les astronomes se sont rendus compte que pour pouvoir aller observer des époques aussi lointaines, donc ce gaz très important pour comprendre l'histoire de l'univers depuis des temps très très loin dans le temps et dans l'espace, et il fallait construire un très grand télescope. Il a été compris tout de suite qu'il s'agissait de quelque chose à faire au niveau international. Souvent, les radiotélescopes sont nés et ont été conçus et construits dans un pays, deux pays maximum ensemble. Dans ce cas-là, on dit souvent « sky is born global », dans le sens que tout de suite, il a été compris que pour des raisons financières, bien évidemment, mais surtout scientifiques et techniques, il fallait se mettre tous ensemble, le plus possible de pays ensemble, pour pouvoir préparer ce grand télescope. Donc non seulement il y a eu une phase de conception des deux télescopes qui vont constituer l'observatoire SKA, mais en plus, en 2011, il a été créé une organisation qui à l'époque s'appelait l'organisation SKA, qui était en charge de concevoir les télescopes, mais aussi préparer la gouvernance de ce type de projet. Et aujourd'hui, depuis 2021, il y a l'Observatoire SKA, qui est une organisation intergouvernementale. Il n'y en a pas beaucoup au monde d'organisations intergouvernementales. SKA, c'est la deuxième pour l'astronomie au sol. Et donc, toute cette phase de préparation a permis, effectivement, au travers des précurseurs et Pathfinder, de préparer la technique et la science, comme Florent le disait, mais aussi de préparer comment gérer ce type de grands projets, sous tout point de vue, y compris du point de vue politique et financier.
En effet, une organisation intergouvernementale, à l'instar du CERN ou de l'Agence spatiale européenne, avec 12 États membres. Alors, quels sont les objectifs scientifiques du SCA? Il sera très polyvalent, c'est ce qu'on s'apprête à découvrir dans quelques instants.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Chiara Ferrari et Florent Mertens, nous parlons du futur SKA, le radiotélescope géant en cours de construction. On vient de parler de l'historique du projet, comment cette organisation intergouvernementale a été créée par un traité international, un peu similairement au CERN et à l'Agence spatiale européenne. On vient de parler des deux télescopes, un en Australie, un en Afrique du Sud, un siège qui est au Royaume-Uni. Maintenant, Florent Mertens, pourquoi l'observatoire SKA est-il finalement un défi technologique inédit?
Alors, c'est un défi technologique inédit, par le nombre d'antennes immense, ce qui représente un nombre de données immense. C'est vraiment le projet Big Data typique. Et donc, on a quand on regarde un peu le flot de données qui est en sortie de ces antennes, ça représente plusieurs pétabytes de données par seconde. Donc c'est un flot immense de données qui a besoin d'être traité, donc qui est traité par différentes étapes. Il y a une première étape de corrélation. On va combiner les signaux entre les différentes stations. Et ensuite, il y a une étape de calibration et d'imagerie. Donc, à partir de tous ces signaux ensemble, on va les combiner pour obtenir des images du ciel. Et toutes ces étapes, en sortie, nous produisent des données scientifiquement exploitables qui vont être utilisées par les astronomes pour faire leur science. Et la quantité de données en sortie sera encore immense. Ce sera plusieurs centaines de pétabytes de données par an. Donc c'est vraiment des données, une masse de données, un déluge de données assez immense.
Le défi de la big data, on entend dire même qu'il va dépasser chaque année le trafic internet mondial d'aujourd'hui. Donc Chiara Ferrari, ça c'est difficile d'établir ce genre de choses, mais en tout cas on peut même parler de big data dans le cas du SKA.
Absolument. C'est le grand défi et c'est une des raisons qui a beaucoup intéressé aussi le gouvernement français au moment de la décision de rentrer dans cette organisation, parce qu'effectivement il y a des défis du numérique dont si on arrive à les attaquer, à les résoudre, ça va avoir un impact bien au-delà que de l'application astronomique.
Et donc, au-delà de l'application astronomique, par rapport justement à ces différentes applications, on sait que cet outil, cet instrument, Florent Mertens, va pouvoir être utile pour capter un grand nombre de phénomènes physiques de l'univers.
Tout à fait. Alors, l'observation radio permet d'observer de nombreux phénomènes dans l'espace. Et le SKA va permettre de résoudre, va permettre d'observer de très nombreux cas scientifiques très importants. Un des cas scientifiques sur lequel je travaille moi-même, c'est l'observation des premiers instants de l'univers, du premier milliard d'années de l'univers, vraiment l'instant où les premières étoiles se sont formées. Et l'instant de l'époque de l'ionisation, donc l'époque de l'ionisation, c'est l'époque où les premières étoiles se sont formées et ont ionisé l'univers autour. Il faut savoir que à l'époque des premières étoiles, l'univers est principalement fait d'hydrogène neutre et que cet hydrogène neutre va être ionisé par le rayonnement de ces premières étoiles. Et donc SKA va nous permettre d'étudier toutes ces époques qui sont vraiment dans le premier milliard d'années de l'univers. Donc vraiment des époques fondamentales.
Alors cette époque justement de l'âge sombre, Florent Mertens, à quel moment se situe-t-elle dans l'histoire de l'univers?
Donc les premières étoiles, les premières galaxies, c'est à peu près une centaine de millions d'années après le Big Bang. Et on estime que la fin de cette époque de l'organisation, c'est à peu près 1 milliard d'années. Maintenant, le Big Bang et l'âge de notre univers est à peu près 14 milliards d'années. Donc là, on étudie vraiment les premiers instants de l'univers.
C'est ça, Chiara Ferrari, c'est que cet âge sombre, on est à un moment, on est entre l'émission du fond diffus cosmologique et l'allumage de la première génération d'étoiles.
Effectivement, donc souvent on fait cette comparaison, c'est comme si quand on a les photos de l'album de famille, il manquait tout pour l'univers, on a les phases initiales, qui est la radiation du fond diffus cosmologique. Et puis on voit un univers avec les autres télescopes, on voit un univers dans lequel tout est formé, les galaxies, les étoiles, la couleur planète, etc. Il nous manquait vraiment cette étape intermédiaire. C'est comme si on avait des photos, des échographies d'un bébé et puis la personne adulte. Nous, avec SCA, on va pouvoir remplir cette bande de famille et donc étudier ces âges dans lesquels, comme Florent le disait, il y avait pratiquement en termes de matière observable que l'hydrogène neutre qui domine vraiment à ce moment-là par la matière noire dont on ne connaît pas la nature. Mais donc SCA va nous permettre d'observer cet hydrogène neutre, ce qui est vraiment quelque chose de phénoménal. Et puis bon, il y a beaucoup d'autres cas scientifiques sur Rome, mais celui-là c'est vraiment un cas scientifique sur lequel Florent est un grand expert. Qui fera sûrement, amènera des découvertes très importantes.
En tout cas, merci pour cette allégorie de l'album de famille. Vous souhaitiez compléter, Florent Mertens?
Oui, tout à fait. Pour montrer un peu la puissance de SKA, pour observer ces premières époques, on pourra vraiment avoir une image vraiment de toutes ces époques. Alors, en effet, l'hydrogène neutre émet à une longueur d'onde de 21 cm, qui est vraiment une raie fondamentale. Mais cette raie émise à 21 cm va être étendue par l'expansion de l'univers et nous arrive à différentes longueurs d'onde suivant l'époque où elle a été émise. Et donc, typiquement, un photon émis pendant l'époque de l'organisation va arriver sur Terre et on va l'observer à une longueur d'onde d'à peu près 2 mètres. Et une réémise pendant l'aube cosmique va être reçue sur Terre avec une longueur d'onde d'à peu près 6 mètres. Et donc en observant toutes ces fréquences, on peut vraiment observer toutes ces différentes époques de l'aube cosmique à l'époque de l'organisation.
Et d'où l'importance d'avoir un grand télescope pour capter ces signaux très difficiles. Je lisais voilà, que le SKA sera donc le premier instrument capable de cartographier cette distribution du gaz d'hydrogène tout au long de l'époque de la réionisation. Mais Florent Mertens, le JSWT, le James Webb, le fameux télescope spatial, est censé lui aussi étudier cette période-là. Quelle différence finalement entre ces deux outils ?
Alors, la grande différence fondamentale, c'est que le James Webb, en fait, va observer les galaxies à ces époques, mais ne peut vraiment qu'observer les galaxies les plus puissantes, les plus brillantes. C'est des époques tellement lointaines, tellement reculées, que pour pouvoir observe que les galaxies les plus brillantes. L'observation que l'on fait de l'hydrogène neutre, c'est en fait observer tout ce qu'il y a autour de ces galaxies. Donc c'est vraiment un peu complémentaire aussi, et ça nous permet, on peut faire cette analogie un peu, avec James Webb, en fait, on a des informations très importantes de ces époques, mais c'est un peu le haut de l'iceberg, en fait. C'est vraiment le 10% de l'iceberg, et avec SKA, on pourra observer le reste.
Chiara Ferrari, en effet, pour le moment, le James Webb n'a pas encore réussi à capter la première lumière de la première étoile.
Oui, c'est ça. Non, mais effectivement, comme le disait Florent, la chose à garder en tête, c'est que le James Webb, c'est un instrument qui observe une autre bande de longueur d'onde. Donc, c'est complémentaire parce que il observe deux types de sources vraiment différentes. Donc, ce gaz d'hydrogène qui était là avant la formation des sources lumineuses que le James Webb peut capter, nous, on pourra l'étudier avec SKA. C'est-à-dire, le James Webb, même d'autres télescopes plus grands qui pourront aller de plus en plus loin, mais ils pourront observer les objets quand ils sont formés. On ne peut pas observer une galaxie si elle ne s'est pas encore formée. Donc, bien évidemment, s'il y a toutes les phases avant la formation des étoiles, avant la formation des galaxies, on ne peut pas les étudier avec des télescopes qui observent les étoiles et les galaxies. Donc, on a besoin d'avoir un instrument qui nous permet d'observer la matière qu'il y avait avant la formation de tout ça. Et cet instrument, eh bien, le SK.
Florent Mertens. Je croyais que vous souhaitiez compléter. En tout cas, par rapport à cette complémentarité des instruments, là, on évoque le James Webb. Je pense à aussi un autre réseau d'interférométrie. C'était celui très connu, le réseau EHT, Event Horizon Telescope, à qui l'on doit ce premier cliché de l'image d'un trou noir en 2019. Ce réseau EHT, c'est-à-dire qu'il est lui non plus pas suffisant. Qu'est-ce que vient justement combler le SKA par rapport à ce type de réseau?
Alors, l'EHT, c'est vraiment un radiotélescope qui a été conçu pour vraiment un objectif précis, qui est l'observation des trous noirs. Donc c'est un peu... c'est assez différent. SKA est extrêmement sensible parce que combine beaucoup d'antennes ensemble. L'objectif, c'était d'avoir une résolution extrêmement fine. Donc dans ce domaine, c'est un peu l'observatoire ultime, parce qu'il va utiliser, il va combiner des télescopes qui sont répartis sur toute la Terre. Et donc, en termes de... C'est comme si on avait vraiment un télescope qui était de la taille de la Terre. Donc, au niveau résolution, c'est vraiment le télescope ultime. Mais en termes de sensibilité, c'est un peu moins puissant que SKA. Mais pour l'objectif de l'EHT, qui était vraiment l'observation de ces trous noirs, c'est exactement ce qu'il fallait.
En tout cas, il n'y a pas que les âges sombres que ce radiotélescope va pouvoir sonder. Qu'attend-on de lui? Quelle découverte espère-t-on? Quels sont les autres objectifs scientifiques? On continue d'en discuter dans quelques instants. Time Machine de Satori, en direct sur France Culture, car nous parlons d'un instrument à remonter le temps, le futur radiotélescope SKA. On en parle avec nos deux invités du jour, Chiara Ferrari, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur et directrice de SKA France, et Florent Mertens, chercheur à l'Observatoire de Paris, laboratoire luxe, laboratoire d'études de l'univers et des phénomènes extrêmes. On vient de parler de ce Square Kilometer Array, ce vaste réseau d'antennes et de paraboles déployé en Afrique du Sud et en Australie qui va bientôt scruter l'univers radio et notamment bientôt scruter l'âge sombre, hein, l'âge sombre qu'on appelle comme ça parce que littéralement on n'y voit rien, pas assez de sources lumineuses, juste des photons diffus dans un immense nuage de gaz. Chiara Ferrari, quelles sont les autres thématiques scientifiques qui vont être privilégiées au sein du SKA?
Oui, c'est une question très importante parce qu'en effet, on parle d'un observatoire parce qu'il ne s'agit pas d'un expériment. Donc il y a certains projets de radioastronomie qui ont comme objectif l'étude de l'époque de la réionisation. Il s'agit vraiment d'expériments. Dans ce cas, il s'agit d'un observatoire parce que il va nous permettre d'étudier en gros tout type de sources astrophysiques et cosmologiques. Alors pour donner quelques exemples, en particulier en me concentrant sur ces cas scientifiques sur lesquels SKA va être unique, le seul télescope qui va nous permettre vraiment de faire certains types d'études. Alors, je répare de ce que Florent disait sur l'Event Horizon Telescope. Effectivement, comme Florent le disait, c'est un réseau d'antennes unique pour observer la partie vraiment centrale près du trou noir. Avec SKA, on aura la possibilité d'étudier les effets sur les propriétés des galaxies de la présence de trous noirs au centre des galaxies même. C'est-à-dire qu'il y a de l'émission radio associée à la présence de trous noirs au centre des galaxies qui sont à étudier pour comprendre comment ces galaxies évoluent, comment le trou noir évolue, quel est l'impact des trous noirs au centre des galaxies sur la matière environnante, etc. Donc SKA en général va être un instrument vraiment unique pour l'étude de l'évolution des galaxies pour les effets de l'étude des trous noirs, mais aussi une fois de plus pour l'étude du gaz neutre, d'hydrogène neutre au sein des galaxies. Les galaxies sont des êtres vivants, sont des objets qui continuent à évoluer au cours de l'âge de l'univers en formant plus ou moins d'étoiles. Et pourquoi c'est important d'observer le contenu en gaz d'hydrogène? Parce que les étoiles qui se forment au sein des galaxies se forment à partir des nuages de gaz atomique. C'est la matière première. Donc si on veut comprendre pourquoi au cours de l'âge de l'univers on a vu une évolution du taux de formation d'étoiles globales des galaxies, il faut étudier son gaz. Leur gaz, pardon. Autre cas scientifique unique, c'est le SKA va nous permettre d'étudier les champs magnétiques de l'univers. Les champs magnétiques, on sait aujourd'hui, ils sont partout, à toutes les échelles de l'univers, des petites sources, des planètes, jusqu'aux plus grandes structures de l'univers qui sont les amas et les superamas des galaxies. On sait qu'il y a des champs magnétiques. On a du mal, encore aujourd'hui, à mesurer avec exactitude leur intensité, leur structure, et cependant c'est une information dont on a besoin pour vraiment bien comprendre la physique évolutive des objets de l'univers. Donc SKA, au travers différents types de mesures, va nous permettre de mesurer ces champs magnétiques. Et si j'ai encore une petite minute, je voudrais parler des pulsars, qui sont des objets, des phares cosmiques qui émettent en radio, et qui, si vous voulez, on pourra parler des détails, mais en gros, vont transformer notre galaxie, considérée dans notre galaxie, il y a des milliers de pulsars, en mesurant les temps d'arrivée de ces pulses d'émission radio qui durent quelques millisecondes pour chaque pulsar, en mesurant tous les temps d'arrivée des pulsars simultanément, on peut capter des ondes gravitationnelles et donc transformer notre galaxie en un énorme détecteur d'ondes gravitationnelles. Et je trouve toujours, je le dis chaque fois que je parle de SKA, un télescope sur Terre va transformer notre galaxie en un énorme télescope pour capter des ondes gravitationnelles. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de phénoménal.
On reviendra évidemment dans le détail sur comment transformer notre galaxie en détecteur d'ondes gravitationnelles. Je reviens justement sur un des champs d'étude du SKA, Chiara Ferrari, par rapport à l'origine des champs magnétiques cosmiques. Le SKA va s'intéresser justement au rayonnement synchrotron, c'est ça?
Oui, c'est ça. Effectivement, c'est un type de rayonnement qui est vraiment dominant en bande radio. On va pouvoir observer des sources qui émettent cette radiation synchrotron pratiquement avec toutes les fréquences de SKA. Donc de SKA low à SKA mid, on aura de l'émission de synchrotron découverte de tout type de sources dans le ciel. Il s'agit d'un type de rayonnement qui est associé à la présence de champs magnétiques, justement, et d'électrons relativistes, c'est-à-dire de petites particules qui bougent à des vitesses très proches à celles de la lumière et qui, quand elles trouvent du champ magnétique, elles sont trappées par les lignes de force du champ magnétique. Ces électrons commencent à tourner autour des lignes de champ magnétique et en faisant ça, il y a de l'émission d'ondes radio. Et donc c'est un type de mécanisme très très important pour la radioastronomie.
Donc ça veut dire qu'avec le SKA, Chiara Ferrari, on va pouvoir cartographier comme ça de plus en plus finement la distribution des champs magnétiques dans l'univers?
Absolument, à toutes les échelles, au travers de différents types de mesures qui demandent beaucoup de traitements de données très fins et des traitements mathématiques très très importants. Donc il y a de plus en plus la collaboration avec des mathématiciens, des gens experts de traitement du signal, mais tout à fait, ça va être le grand découvreur de champs magnétiques dans l'univers.
Là, on comprend bien, là, entre l'étude de l'évolution des grandes structures cosmologiques, l'origine des champs magnétiques cosmiques, les pulsars, on y reviendra. On comprend bien qu'il y a quand même des thématiques scientifiques très variées. Et on n'a pas encore parlé aussi de ces drôles de signaux que j'aime beaucoup, les FRB, les sursauts radio rapides, Florent Mertens. Ces fameux FRB, Fast Radio Burst, découverts en 2007, qui sont toujours, l'origine est encore mystérieuse. Alors peut-être que le SKA pourrait percer ce mystère-là.
Tout à fait. Alors, c'est un des phénomènes un peu très mystérieux encore en radioastronomie. Les premiers FRB ont été observés il y a pas mal de temps déjà. Et il y a quelques années, avec un instrument comme SHIME au Canada, on a pu observer de plus en plus de FRB, donc des fast radio bursts, qui sont des phénomènes transitoires, qui sont liés à des phénomènes explosifs. On ne sait pas encore exactement quelle est l'origine de ces FRB, et on espère avec SKA pouvoir en observer encore plus pour pouvoir avoir une meilleure compréhension. Ce que nous apportera SKA à ce niveau-là, c'est vraiment peut-être au niveau de la on va pouvoir observer les phénomènes transitoires de manière très précise. Parce que SKA va nous permettre d'obtenir des images très précises, très détaillées, de manière très rapide.
Très précise, par exemple, dans la direction de la source.
Exactement. Et donc, pour pouvoir associer ce FRB à des phénomènes que l'on observe à d'autres longueurs d'onde, SKA va nous le permettre de manière très précise.
Alors, comme vous dites, il y a SHIME, mais il y a aussi autres télescopes qui a d'ailleurs été construit pour préparer la voie à SKA. C'est aussi le télescope ASCAP également, Florent Mertens.
Oui, tout à fait. Ça a
permis de mettre la main sur un grand nombre de FRB ces dernières années.
Exactement. Donc, ASCAP est un instrument qui est construit sur le site même de SKA LO, donc en Australie, donc qui combine plusieurs dizaines d'antennes ensemble. Et qui couvre une gamme de fréquences qui correspond un peu à ce qu'observera SKA MID. Et donc, en effet, a pu observer des très nombreux FRB.
Voilà, donc on espère que du SKA qui puisse mettre la main sur les origines de ces FRB, hein, qui peuvent libérer, on le rappelle, plus d'énergie que le soleil en 80 ans, en un intervalle de temps très court. Quant aux pulsars, eh bien, on y arrive avec le reportage du jour. Derrière la radioastronomie se cache tout un tas de calculs et d'algorithmes qui permettent de faire des images, mais aussi de détecter de nouveaux objets. On continue d'en parler avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes passé à la conférence annuelle sur les données de LOFAR, le prototype européen du SKA, qui avait lieu à l'IPGP.
Oui, et d'ailleurs, nous nous sommes croisés là-bas avec Florent Mertens, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'est vous qui avez organisé cette conférence. Mais surtout pour mon reportage, j'ai rencontré Cyril Tasse, astrophysicien à l'Observatoire de Paris, qui a développé un outil pour détecter des émissions lumineuses variables dans l'univers. Grâce à cet algorithme, Cyril et ses collègues ont trouvé un pulsar, le fameux pulsar dont vous parliez, Natacha. Mais celui-ci est très étrange. Alors un pulsar, c'est une étoile à neutrons très petite, très dense et qui normalement envoie de la lumière de manière périodique. Mais ce système-là, ce spécimen-là, il se comporte de manière complètement anarchique. Et vous allez pouvoir entendre ce comportement étrange, puisqu'il est possible de convertir les ondes radio émises par ce pulsar en son. C'est exactement le même principe que votre poste radio qui convertit la lumière émise par les antennes de Radio France pour que vous puissiez m'entendre.
Il y a un gros mystère autour de cette source. On ne sait pas exactement ce que c'est. Alors en fait, là, on entend entre deux pics. Ici, là, il y a à peu près une minute. C'est accéléré. C'est pas périodique. C'est le gros mystère autour de cet astre. Il est pseudo-périodique. Il a une période autour de une minute. Donc, on a réobservé cet objet-là. Et en créant ce qu'on appelle le spectre dynamique, c'est-à-dire qu'en décomposant la lumière...
C'est ce qu'on voit sur la gauche, hein, qui
c'est
défile
ce qu'on voit sur
en
la
fonction
gauche.
Du temps petit à petit à mesure de l'observation.
Donc on appelle ça un spectre dynamique. Donc là, en fait, on va décomposer la lumière qui est captée par Meerkat, la lumière radio qui est captée par Meerkat, en différentes bandes de fréquences. et on se rend compte qu'il y a une structure dans les bandes de fréquences. Il n'émet pas pareil à toutes les fréquences. Et c'est là qu'on a décidé de...
C'est-à-dire qu'en plus d'être apériodique, chaque flash est très différent.
Tout à fait, les flashs sont différents. Il y a des bandes de fréquences qui apparaissent, qui disparaissent. Là, on a un point qui n'apparaissait que sur une des fréquences. Ici, tac. Et voilà, donc alors ce comportement et cette structure en fréquence est plutôt mystérieuse.
Cet astre étrange, Cyril et ses collègues l'ont trouvé dans des données d'archives. Des observations qui avaient été faites par le télescope MIR 4 en Afrique du Sud en 2019. Puis, ils ont observé à nouveau dans la même direction, et là, ils ont réussi à retrouver cet objet, ce qui a permis d'acquérir de nouvelles données.
Et dans cette deuxième observation, alors on a d'abord confirmé que l'objet était toujours là, et on avait aussi un mode d'observation qu'on appelle Tidal Beam. C'est un réseau phasé, on ne peut pas faire d'image avec, par contre ça nous permet d'échantillonner, enfin, disons d'avoir accès à des variations beaucoup plus rapides. C'est-à-dire que là, le pixel sur le spectre dynamique, il a une taille de quelques secondes. Dans les données beaucoup plus rapides, on a accès à des temps qui sont de l'ordre de la milliseconde. Et en fait, on a trouvé qu'il y avait quelque chose, pour le coup, qui était périodique, à une période de 0,5 secondes, donc plus petite que le pixel ici. Et donc ça indique la présence d'un pulsar. On pense qu'il y a un pulsar. Et aussi, on a eu une idée de la distance, c'est-à-dire que le pulse qui est périodique à 0,5 secondes, il est un petit peu incurvé, et ça nous donne une idée de la distance. Et donc on sait que cet objet-là, qui est situé à côté du nuage de Magellan, est à peu près en bordure de la galaxie. Et alors le gros mystère, c'est qu'est-ce qui se passe autour de cet astre, si c'est bien un pulsar, qui rend son comportement apériodique.
Parce qu'un pulsar émet forcément des flashs de manière périodique.
Un pulsar, c'est un peu comme un phare. Donc il est en rotation rapide, et quand on est dans le faisceau du phare, on voit un flash. Et son comportement est périodique, et après les pulsars peuvent avoir des comportements étranges, on ne comprend pas tous les pulsars, il y a des pulsars qui sont extrêmement stables, qu'on comprend bien. Et il y a aussi tout le milieu interstellaire que l'onde va traverser entre nous et le pulsar, qui peut influencer, qui peut créer de la structure en fréquence comme on observe, mais c'est un cas vraiment extrême, pour l'instant on ne comprend pas.
Oui, parce qu'il est vraiment bizarre. D'ailleurs, le nom que vous lui avez donné à cet éventuel pulsar, il montre bien qu'il est bizarre. Parce que vous l'avez appelé comment ?
On l'a appelé entre nous, on l'a appelé le What the Fuck Pulsar.
Donc le pulsar du n'importe quoi pour
la
société.
Le pulsar du n'importe quoi, tout à fait.
Cet outil qui détecte les émissions variables dans l'univers et qui a trouvé ce pulsar, pour l'instant, il n'a été testé que sur des données d'archives. Mais le but, c'est surtout qu'à l'avenir, il analyse les données que va fournir le télescope SKA. L'objectif, ce serait par exemple de détecter des aurores boréales, mais sur d'autres planètes. Et cela permettrait d'en savoir un peu plus quant à la possibilité de voir la vie émerger ailleurs.
Les aurores boréales, c'est le fruit de l'interaction entre le vent du Soleil et nos boucliers magnétiques. Ce qui fait que la Terre est habitable, c'est qu'on a un champ magnétique qui nous protège du vent solaire. Sans ce champ magnétique, sans ce bouclier magnétique, une partie de l'atmosphère aurait été emportée dans l'espace et il ferait très froid. Et la vie serait peut-être impossible.
Donc ça permet de nous renseigner sur le bouclier magnétique d'autres planètes.
Tout à fait, c'est ça l'idée, connaître les propriétés magnétiques de ces planètes. Et ça nous renseigne également sur les propriétés magnétiques de l'étoile. C'est-à-dire que c'est vraiment des interactions magnétiques entre l'étoile et la planète. Alors on pense qu'on commence à pouvoir détecter ce genre de phénomène. Mais SKA va vraiment ouvrir une grande fenêtre sur ce type de physique. Et puis il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas. On sait qu'on va pouvoir progresser avec SKA sur certaines questions, mais il y a aussi les questions qu'on ne peut pas encore formuler à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas l'instrument. Et quelque part, on cherche avant tout la surprise, c'est-à-dire détecter des objets auxquels on n'avait pas pensé, qu'on n'a jamais observé actuellement. Et typiquement, cet objet-là, il est intéressant parce qu'il ressemble à rien de ce qu'on connaissait avant.
Une chose qu'il faut dire pour bien comprendre, c'est que l'outil qui a permis de détecter cet objet étrange, c'est un algorithme derrière, c'est des méthodes de calcul qui permettent de détecter ces objets fluctuants.
Tout à fait. En fait, on a un petit peu créé... C'est comme si votre poste de radio n'émettait que des sons assez ennuyeux, des notes. Et on
monocorde, très monocorde.
Très monocorde. Donc ça, ce sont les trous noirs, les radiogalaxies, les galaxies à formation stellaire, etc. N'émettent que des choses assez monotones. On a développé une méthode donc, pour trouver des stations qui sont où il y a des choses qui se passent, des choses variable temporellement. Et c'est exactement ce qu'on observe, en fait. C'est comme ça qu'on utilise Meerkat comme un poste de radio qui convertit la lumière en son. Et on a trouvé cet endroit-là, en particulier, dans cette direction-là, il y a un signal intéressant.
Et derrière, pour la partie informatique et mathématique, il y a aussi plein d'enjeux, parce que votre algorithme, il ne sera pas seul sur le Square Kilometer Array, donc il faut qu'il ne soit pas trop lourd et qu'il ne prenne pas trop de place.
Alors c'est ce qu'on va essayer de développer dans les années à venir avec SCA. On aimerait que cet algorithme de recherche de stations et d'objets étranges puisse être généralisé. Parce qu'en fait, dans le champ de SCA, il y aura toujours des centaines d'étoiles, voire des milliers d'étoiles. Ces étoiles-là, on va essayer de chercher parfois une étoile qui aura un comportement anormal, qui va émettre des ondes radio structurées, comme celles qu'on vient d'entendre, et variables. Et derrière ces détections potentielles, à l'avenir, il y aura beaucoup de choses à faire, scientifiquement, et des découvertes à faire.
Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo, sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Florent Mertens, vous avez travaillé sur un algorithme de ce type et puis avec l'OFAR également.
Oui, tout à fait. Alors j'aimerais d'abord un peu rebondir sur ce que disait Cyril, parce que c'est vrai que très souvent, en fait, les découvertes les plus fondamentales sont des découvertes qu'on n'avait pas forcément prévues. Et le fait de construire un instrument qui dépasse tout ce qu'on sait faire actuellement nous permet de découvrir des phénomènes encore totalement inconnus. Et c'est ça un peu ce qui va être incroyable avec SKA, c'est que on a tous les cas scientifiques, qu'on sait ce qu'on va observer, on sait un peu ce à quoi s'attendre. Mais il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas, qu'on pourra découvrir avec le SKA.
Votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive, de ce reportage, Chiara Ferrari?
Oui, alors, d'abord, j'ai eu la même réaction de Florent, c'est-à-dire, j'ai pensé tout de suite, il faut qu'on souligne ça, qu'en général, les astronomes sont quand même des personnes qui cherchent à trouver l'inconnu. Donc, pour donner un exemple, avec l'Hubble Space Telescope, qui était le précurseur du JWST, sur les 10 principales découvertes, 2 étaient sur des objets attendus, disons, de découvertes pour lesquelles le télescope avait été construit. Les autres 8, et les plus importantes, ont été des découvertes. c'est très important. Et par rapport à ça, je voulais souligner l'importance, justement, d'algorithmes. Aujourd'hui, la partie numérique des télescopes est aussi importante que les télescopes en soi. C'est-à-dire le numérique, le traitement des données, la mathématique pour arriver à traiter les données comme il le faut, chose sur laquelle les Français sont très forts, comme Cyril et comme Florent, fait partie aujourd'hui intégrante des télescopes. Ça, c'est vraiment important à souligner, parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que dans les big data, si on n'est pas capable de bien chercher, on risque sinon de perdre des découvertes importantes.
Chiara Ferrari, par rapport justement, là on entendait parler de cette station LOFAR, c'est ce qu'on appelle les SKA éclaireurs, avec également l'autre version Nénuphar, mais quel est le rôle de la France au sein du SKA?
Oui, alors, donc d'abord, effectivement, la France participe très activement à LOFAR, avec ce télescope Nénuphar qui est à Nancy, à l'Observatoire d'astronomie de Nancy. Il s'agit d'un télescope important parce qu'il couvre les parties de très basse fréquence du spectre électromagnétique, donc il va encore plus bas que SCALO, en effet. Et Nénuphar peut être utilisé avec les autres stations de LOFAR qui sont partout en Europe, ou tout seul comme un instrument, on dit stand-alone. Donc un instrument qui tout seul peut faire des découvertes très importantes, notamment sur l'étude de l'époque de la réionisation. Donc il y a eu cette préparation. La France est aussi très impliquée sur les aspects numériques, comme je soulignais tout à l'heure, du point de vue de la fourniture des supercalculateurs qui vont servir au traitement des données, et pour la conception méthodologique. Donc en France, il y a une tradition de mathématiques, de traitement du signal et des images, qui est parmi les meilleures au monde. Et donc il est très important que les personnes qui travaillent déjà en collaboration avec les astronomes ou les astronomes comme Cyril et Florent qui développent des outils, travaillent pour améliorer cette partie. Et donc, c'est vraiment une implication très importante de la France dans le projet, tout ce qui concerne l'aspect numérique, du point de vue méthodologique, traitement de données, et du point de vue computationnel avec les supercalculateurs qui serviront à ça.
Par rapport aux découvertes attendues, une dernière chose qu'on n'a pas évoquée ensemble, Florent Mertens, on parlait de découvertes importantes sur la réionisation, le fait que SKA pourra cartographier la distribution du gaz, d'hydrogène tout au long de l'époque de la réionisation. Mais alors, on devrait aussi pouvoir un peu mettre la main sur la matière noire.
Exactement, exactement. Donc, un peu essayer de compléter notre modèle cosmologique. Donc, on pourra faire ça aussi en observant l'hydrogène neutre, mais cette fois-ci, c'est l'hydrogène neutre des galaxies. Donc, l'observation de l'époque de l'ionisation, c'est observer l'hydrogène neutre qui est autour des galaxies pour améliorer nos modèles cosmologiques, donc essayer de contraindre la matière noire et l'énergie noire. Ce sera vraiment observer la distribution spatiale de toutes ces galaxies qui vont nous permettre de contraindre ces modèles cosmologiques.
Voilà, ces modèles cosmologiques. Et puis aussi, on ne l'a pas évoqué, la détection, la compréhension de l'évolution des systèmes d'exoplanètes. Enfin voilà, on a bien compris que tout ça était vaste, riche. On arrive vers la fin de cette discussion, Chiara Ferrari. Finalement, aujourd'hui, là, en 2025, on en est où ? Comment ça avance ?
Alors, le projet avance bien. Il y a déjà des observations. Donc, Scalo avance plus rapidement dans la construction. Pourquoi ? Parce que SCAMID doit prendre en compte le fait qu'il y a déjà 64 antennes opérationnelles, qui sont le télescope MERCAP, c'est un télescope sud-africain, qui est opérationnel, qui est aujourd'hui le meilleur télescope au monde et qui deviendra une partie de SCA. Donc, bien évidemment, en construisant, il ne faut pas qu'on crée trop d'interférences, qui, comme je vous disais, peuvent gêner les observations. Donc, la construction doit avancer un peu plus doucement pour SCAMID. Mais donc, aujourd'hui, on a déjà quatre stations de Scalo qui ont été complétées et testées. Et, il y a les premières images d'une station et les premières franges interférométriques. Donc l'interféromètre avec quatre stations fonctionne déjà. Et on a déjà aussi les premières paraboles sur place en Afrique du Sud avec une qui est opérationnelle, avec un récepteur aussi. Et donc on a une première image aussi de SCAMID. Donc la chose jolie des interféromètres, c'est qu'on peut commencer à les utiliser même quand ils sont pas finalisés. Un gros télescope unique, on doit attendre de le finaliser. Pour un interféromètre, on peut commencer avant. Donc entre 2027 pour Scalo et 2029 pour SCAMID, on aura déjà assez d'antennes pour faire ce qu'on appelle la science verification, donc commencer à faire des premières observations scientifiques. Et puis avant la fin de la décennie pour Scalo et au tout début de la décennie pour SCAMID, on aura les deux interféromètres complètes qui pourront commencer à être utilisés par les scientifiques. Donc on avance très bien. Et c'est vraiment très joli à voir.
Voilà, donc on attend quand même 2027, ça va vite arriver. Merci, on est dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbault. Mais pour prolonger l'écoute, vous pouvez aussi podcaster un de nos épisodes, La réionisation sort de l'ombre, pour en savoir plus sur cette période clé, qui est l'aube cosmique. Mais un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Tout de suite, on part à la chasse aux neutrinos, direction la Chine, et le détecteur géant Juno, c'est la chronique avec science.
Comment les neutrinos peuvent-ils nous aider à affiner le modèle standard ? Les neutrinos, ce sont des particules fondamentales, autrement dit, les plus petites briques possibles. On ne peut pas les diviser en autre chose. Vous connaissez, par exemple, l'électron ou le boson de Higgs, ce sont aussi des particules fondamentales. Les neutrinos, eux, sont moins familiers, et pourtant, ce sont les particules les plus abondantes de l'univers. Chaque seconde, des milliers de milliards de neutrinos traversent notre corps, mais comme ils interagissent très peu avec la matière, ils sont très difficiles à capturer. Cécile Jollet est maîtresse de conférence à l'Université de Bordeaux.
C'est une particule fondamentale qui n'a pas de masse dans le modèle standard de la physique des particules et qui interagit très très peu avec la matière. C'est-à-dire qu'elle ne fait que l'interaction par ce qu'on appelle l'interaction faible. Eh bien, il y a des milliards de neutrinos qui nous traversent sans être détectés. Donc finalement, il a fallu beaucoup de temps pour connaître ses propriétés. Une des propriétés importantes qu'on connaît bien maintenant, c'est que ce neutrino, il oscille. Et donc, il va passer d'un type de neutrino, donc neutrino électronique, muonique ou toique, vers un autre type de neutrino. Et ça, c'est un phénomène qui dépend de la distance que le neutrino parcourt, de son énergie. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça prouve que le neutrino, il est massif. Si je peux passer d'un type à un autre, ça veut dire qu'il se propage avec des phases différentes, donc une masse différente. Et ça, ça implique que le neutrino est massif. Et donc, le modèle standard de la physique des particules, il est incomplet à ce niveau-là, puisqu'il n'avait pas prédit de masse au neutrino.
Le modèle standard, c'est la théorie physique qui régit toutes les particules et forces fondamentales. Et on sait qu'il n'est pas parfait. L'enjeu est donc de mieux comprendre les caractéristiques de ces neutrinos pour affiner ce modèle standard. Et plutôt que d'attendre que les neutrinos nous traversent, les scientifiques ont recours à des installations tout à fait humaines qui produisent naturellement des neutrinos, les centrales nucléaires. Et c'est justement à proximité de deux d'entre elles, de deux centrales chinoises à 53 km de distance, qu'un nouveau détecteur vient d'être installé. Il s'appelle Juno pour Jiangmen Underground Neutrino Observatory. Il est niché à 700 mètres sous une montagne, près de la ville donc de Jiangmen. Et si le détecteur est placé sous terre, c'est pour se protéger des rayons cosmiques. Et c'est indispensable à la sensibilité des détecteurs. Ce projet a démarré il y a plus de 10 ans en Chine, en collaboration avec 6 laboratoires français, et ils commencent tout juste à récolter des données. Imaginez une sphère d'acrylique de 35 mètres de diamètre, entourée de milliers de capteurs, remplie de 20 kilotonnes de liquide scintillant. C'est là que le neutrino va interagir avec la matière, et le tout est plongé dans une piscine de 44 mètres de long, pour bloquer cette fois la radioactivité naturelle. Son premier objectif est de mesurer la masse de chacun des types de neutrinos. Cécile Jollet est également la responsable scientifique française de ce projet.
On connaît le phénomène d'oscillation, on le connaît assez bien, mais il y a encore des choses qu'on ne connaît pas bien. On ne sait pas lequel des neutrinos a la masse la plus élevée ou la plus basse, c'est-à-dire quel est l'ordre des masses. On sait que l'électron est plus léger que le muon, qui est plus léger que le tau, donc on s'attendrait, mais ça n'a jamais été mesuré, que le neutrino électronique soit plus léger que le neutrino muonique et plus léger que le neutrino toique. C'est ce qu'on appellerait une hiérarchie de masse normale, mais on n'a aucune indication sur ce qu'elle est normale ou elle pourrait être inversée, ça pourrait être dans l'autre sens. Donc ça, c'est déjà une information assez intéressante pour les théoriciens. Ensuite, pour l'avenir, il y a des expériences qui se préparent, qui vont aller regarder si l'oscillation des neutrinos, elle est un peu différente de celle des antineutrinos. Et ça, c'est aller regarder si, quand on passe de particule en antiparticule, est-ce qu'on a le même phénomène? Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'on a des violations d'une certaine symétrie et que ces violations-là, elles pourraient expliquer peut-être pourquoi la matière a gagné sur l'antimatière.
C'est un peu l'expérience ultime des neutrinos. Comprendre pourquoi il y a davantage de matière que d'antimatière dans l'univers et d'où vient cette asymétrie. C'est l'objectif. Dans 10 ans, pour l'instant, Juno va collecter des données, mesurer les différences de masse entre les saveurs, donc les types de neutrinos, et réduire autant que possible le bruit parasite. Et il n'est pas seul dans cette quête. D'autres observatoires travaillent sur les mêmes objectifs, mais avec des méthodes différentes. IceCube, par exemple, utilise des neutrinos venus du cosmos, KM3Net se concentre sur ceux de l'atmosphère, Super Kamiokande au Japon étudie également une quatrième source que sont les neutrinos solaires. Tous ces détecteurs s'attaquent aux paramètres de l'oscillation et c'est l'ensemble de ces résultats qui permettra d'affiner le modèle standard de la physique des particules.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Alex Dang. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.